C'est l'été. Il fait chaud. Les tenues sont de plus en plus légères. Les vacances approchent. C'est aussi le moment de belles rencontres. Qu'elles débouchent ou non sur le long terme, il se peut que le simple flirt évolue jusqu'à la relation sexuelle. Ton crush peut avoir les plus beaux yeux du monde, le plus charmant des sourires. Ce n'est pas une raison pour que tout le reste soit obligatoirement à l'avenant. Ainsi, dans cet article, je vais te parler d'hygiène et de protection des MST et IST pour passer un bel été et plus d'ailleurs sans stress. Car non, il est fort peu probable que le ou la partenaire avec qui tu vas coucher soit resté abstinent pendant les 3 derniers mois depuis son dernier bilan sanguin clean. Donc, il est indispensable de prendre les précautions qui s'imposent. Commençons par l'hygiène, car si tu la négliges, c'est par là que tu vas pouvoir incommoder ton ou ta partenaire. L'été notamment. La chaleur fait fortement suer le corps. La sueur, quand elle sort du corps, est généralement peu odorante cependant. C'est en s'oxydant et en étant attaqué par nos bactéries présentes naturellement sur notre peau que des molécules odorantes vont se dégager. Les zones fortement touchées par la transpiration sont principalement les aisselles, l'aine, les pieds à cause des chaussures, le dos, la nuque, surtout chez les femmes ayant de longues chevelures, et le visage. Lorsqu'elle est abondante à cause de la chaleur, celle-ci aura très vite tendance à sécher et à laisser sur la peau une pellicule collante et grasse peu agréable. Les Parisiens le savent bien d'ailleurs, quand ils empruntent le métro bondé en pleine canicule. Pour éliminer cette transpiration, la douche s'impose et il est nécessaire de se l'imposer plusieurs fois dans la journée s'il le faut. Je ne vais pas te donner de conseils quant à la fréquence pour te laver. Chacun déterminera ce qui lui convient le mieux par rapport à ses activités, sa région, de l'époque de l'année et de ses habitudes. Cependant, le minimum syndical serait d'au moins une douche par jour et un brossage de dents après chaque repas. Se sentir frais est important pour pouvoir sereinement aborder une relation intime avec quelqu'un. Il n'y a rien de pire que d'entamer un corps à corps amoureux en sachant que notre hygiène risque de laisser à désirer. Tu n'as certainement pas envie de voir une expression de gêne ou de dégoût chez ton ou ta partenaire lorsqu'il va approcher une zone de ton anatomie. Au mieux, si cela est possible, une douche rapide avant toute relation est juste souvent magique. Non seulement cela va te permettre de te sentir en toute aisance, mais en plus, cela te permet de pouvoir apporter une petite touche de sensualité en apposant délicatement une crème parfumée sur ton bras ou une touche d'eau de toilette sur le haut de la poitrine. Attention cependant à ne pas trop récurer. Non seulement la peau est fragile, elle a besoin pour ne pas être agressée d'avoir un petit voile gras qui évite les attaques des champignons et des bactéries. Le savon ayant le malheureux pouvoir de décaper fortement cette barrière naturelle protectrice. Il ne faut donc pas l'utiliser trop souvent dans une même journée. Pour les muqueuses, c'est encore plus vrai. Même lavée, la peau garde une odeur qui est propre à chacun. C'est notre signature olfactive. C'est d'ailleurs ainsi que les chiens arrivent à suivre la trace d'une personne en particulier lorsqu'ils sont dressés à cela. De même, chez chacun, les organes sexuels ont d'ailleurs une odeur un peu plus marquée. C'est aussi tout à fait normal. Attention cependant, si l'odeur est vraiment forte et inhabituelle, il se peut qu'il y ait un problème et il est recommandé de consulter un médecin rapidement. Même si ta propre odeur ne te semble pas agréable, il ne faut pas oublier que c'est pour ton ou ta partenaire un des éléments qui va éveiller ses sens. Or, l'odorat, même s'il s'est fortement émoussé dans notre espèce avec l'évolution, passe par des zones primitives du cerveau et peut faire naître de grandes sensations. N'as-tu jamais expérimenté, comme Marcel Proust avec ses madeleines, de ressentir un parfum qui d'un coup ramène à ta mémoire de nombreux souvenirs que tu croyais enfouis? Généralement, ton ou ta partenaire aimera ton odeur personnelle, que ce soit celle de ta peau ou celle de ton sexe, si tu gardes une bonne hygiène. D'ailleurs, les parfumeurs l'ont bien compris en te permettant d'associer leur parfum à ton corps. Pour terminer sur l'hygiène, avant de passer sur un sujet encore plus préoccupant que sont les MST et IST, il faut retenir qu'une bonne hygiène permettra aux deux partenaires d'être parfaitement en confiance avec leur corps en vue d'un rapport sexuel quel qu'il soit. Quant à toi, il te sera certainement aussi plus agréable de te blottir auprès d'un corps doux et sans odeur peu engageant. Est-ce que l'affaire Nacho Vidal te dit quelque chose? Si ce n'est pas le cas, tu peux lire l'article que je te mets en lien ci-dessous. Tu constateras que même dans le milieu professionnel du X, les acteurs et actrices, pourtant très surveillés médicalement, peuvent tout de même se faire contaminer. Tu dois donc, sans toutefois tomber dans la paranoïa la plus totale, prendre tes précautions lors de tes rapports sexuels. Je te propose de commencer par comprendre les risques potentiels liés à un rapport non protégé entre deux partenaires. On parlait il y a bien longtemps de maladies vénériennes, puis de MST pour maladies sexuellement transmissibles, pour parler des maladies qui pouvaient être transmises par des pratiques sexuelles. Aujourd'hui, la norme est d'utiliser l'acronyme IST pour infection sexuellement transmissible. Cela correspond à un rapprochement avec le langage international qui utilise l'acronyme STI pour Sexually Transmitted Infections. Les IST représentent toutes les maladies visibles ou non que l'on peut se transmettre lors de rapports entre individus. Parmi les IST, on retrouve les champignons qui vont causer principalement des démangeaisons ou des douleurs pendant les rapports. Ensuite viennent les bactéries qui peuvent donner des maladies comme la syphilis, la gonococcie, la chlamydiose, etc. Puis, la famille des virus, comme le sida ou l'hépatite B et C, l'herpès ou encore les verrues, qui vont pénétrer à l'intérieur de tes cellules jusqu'à parfois y rester à vie. Les symptômes sont variés. Ça peut aller de l'écoulement, des démangeaisons, des brûlures, des pertes, des saignements, des douleurs, des éruptions cutanées, une infection pulmonaire, de la fièvre, etc. Il est toujours urgent de consulter un médecin en cas de moindre doute. Il faut également avertir tes partenaires avec lesquels des rapports non protégés ont eu lieu pendant la période d'incubation que te donnera le médecin. Parfois, le traitement devra se prendre chez les deux partenaires pour qu'il soit efficace. Il n'y a malheureusement pas toujours de traitement efficace une fois l'infection déclarée. La contamination peut se faire entre la peau et les muqueuses des organes génitaux, par les organes génitaux et la bouche, ou encore par les organes génitaux et le rectum. Il n'est pas toujours nécessaire qu'une plaie soit présente, pour les bactéries et les mycoses par exemple. Certaines IST se soignent assez bien après avoir consulté un médecin. Pour d'autres, comme les hépatites et le sida, c'est une autre histoire. Il est donc impératif d'avoir des rapports qui soient toujours sains pour soi. En effet, penser à soi permet aussi de penser aux autres en évitant de les contaminer par méconnaissance. La règle est simple. Tout rapport avec un nouveau ou une nouvelle partenaire doit être un rapport protégé. Il est possible de se passer de protection uniquement lorsque les partenaires ont effectué deux prises de sang à 3 mois d'intervalle, que celles-ci sont négatives. Je dois ajouter, pour que cela reste valable, que les deux partenaires ne doivent bien sûr pas avoir de relation avec d'autres personnes sans s'être elles-mêmes protégées. Sinon, le risque reste entier pour tout le monde et le protocole de vérification est à refaire. Il vaut mieux le petit désagrément qu'apporte la protection plutôt que de courir un risque qui peut aller de la simple démangeaison en passant par la destruction des reins, de stérilité, voire même jusqu'à la mort. Ce n'est donc pas un sujet à prendre à la légère. Pour ce qui est des protections sexuelles, il n'en existe de fiables à ce jour que deux, l'une étant plus contraignante que l'autre. Les deux sont des préservatifs. L'un est une version masculine, l'autre une version féminine. Le préservatif masculin est de loin le plus utilisé. Il est bien sûr à usage unique. Il possède une date limite à partir de laquelle il ne faut pas l'utiliser pour se protéger, le latex devenant poreux passé cette date. Elle est inscrite sur l'emballage. La technologie a permis aujourd'hui de réaliser des prouesses en termes de finesse. Ils sont tous extrêmement fins et donc bien plus confortables que ce qu'il y était possible de faire avant. Ils s'enfilent très rapidement juste avant l'acte et bien entrepris, ils ne coupent pas l'élan des partenaires. Il existe plusieurs tailles. Messieurs, inutile d'acheter la taille maximale. Non seulement c'est contre-productif car le préservatif peut risquer de se déchirer ou de glisser du pénis et rester dans ton ou ta partenaire. Non seulement le risque de contamination potentielle dans ces cas-là n'est pas nul, mais en plus, il va être nécessaire d'aller le chercher au fond de son intimité. Ce qui importe principalement, ce n'est pas vraiment la longueur, mais la largeur du membre à couvrir. Je te mets ci-dessous un lien qui te permettra de déterminer la taille appropriée par rapport à ta verge. Un préservatif, c'est comme un pantalon. Il faut le choisir à sa taille. Sinon, on est un guignol quand on le porte. De ce fait, la responsabilité de l'achat du préservatif devrait donc revenir au partenaire possédant un pénis. Cependant, pour les partenaires possédant un vagin, je recommande également d'avoir à disposition quelques préservatifs qu'il faudra toutefois renouveler en fonction de la date de péremption afin de pallier au manquement des partenaires masculins qui sont bien trop souvent légers sur ce point. Plus contraignant, le préservatif féminin doit être mis en place avant le rapport sexuel. Cependant, contrairement au préservatif masculin, il peut être mis en place plusieurs heures avant celui-ci. Il est plus épais que le préservatif masculin et, de mon point de vue, bien moins esthétique. De plus, il est beaucoup plus cher. Comme son homologue masculin, il ne peut être utilisé qu'une seule fois. C'est au partenaire possédant un vagin de l'acquérir et de prendre soin de le mettre en place, ce qui n'est pas toujours très simple. Il est donc plus contraignant et souvent moins agréable que le préservatif masculin. Pour terminer sur les barrières de protection, il existe des dites buccales pour se protéger lors des rapports oraux. Car oui, il est possible d'attraper certaines IST par la bouche. La dite buccale s'adresse aux partenaires voulant s'occuper avec leur bouche de la vulve ou de l'anus de leur partenaire. Pour s'occuper d'un phallus, il est préférable d'utiliser un préservatif masculin. Je vous accorde que ce n'est pas très glamour et casse un peu la magie de l'instant. De plus, coups de langue sont moins bien appréciés de ce fait. Quoi qu'il en soit, le plus important dans le couple, c'est de communiquer et de rester honnête avec ses partenaires. La méthode de protection doit être abordée entre deux nouveaux partenaires dès que l'engagement tend à découler sur une relation sexuelle. Il est important de ne rien commencer tant que les deux parties ne se sont pas mises d'accord sur la protection à mettre en place et qui l'a en poche. Quand on est en boîte de nuit, c'est pas simple, mais c'est vital. Par la suite, il sera aussi nécessaire, quand la relation devient stable et durable, de continuer à communiquer sur l'évolution souhaitable de la protection. À quel moment faire un dépistage ensemble et s'il est ou non souhaitable de passer à des relations non protégées. Pour terminer avec cet article déjà bien long, je ne peux que te conseiller d'être totalement honnête avec tes partenaires. Si tu te sais contagieux, contagieuse ou contaminé, préviens ton ou ta partenaire. Il lui reviendra alors la décision de poursuivre l'acte avec la protection de son choix. Contaminer quelqu'un alors qu'on est conscient de son mal peut être puni devant les tribunaux. Et surtout, si tu es dans un couple libre, ou bien que tu vas de temps à autre voir ailleurs, surtout, protège-toi pour ne pas contaminer ton partenaire avec lequel ou laquelle tu ne mets pas de protection. Avec tous ces conseils, un très bel été s'ouvre devant toi. Garde en tête qu'en matière de protection, il ne faut jamais rien prendre à la légère. Si tu suis consciencieusement les bonnes pratiques, il est certain que tes relations sexuelles n'en seront que plus détendues et plus plaisantes. Je t'invite d'ores et déjà à t'inscrire à la newsletter, dont le lien est ci-dessous, pour recevoir un e-book sur les 7 péchés capitaux à ne pas commettre en couple, ainsi qu'un complément sur l'article de la semaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Pour faire partie du cercle des curieux épanouis, je te conseille de t'abonner à la newsletter sur harmoniedecor.fr, harmoniedecortoutattaché.fr. Tu recevras alors l'article plus complet, il te donnera des conseils et quelques astuces. Au revoir.